travers la bouche des autres frères qui nous ont édifiés. Je voudrais simplement rebondir un peu sur la dernière prédication où notre frère David nous a partagé son cheminement, son questionnement à travers, je ne sais plus si tu as parlé du blues d'un dimanche ou d'un soir, en nous disant ce que, avec simplicité de cœur, vivaient les premiers chrétiens. Et il a eu cette expression qui consistait à dire, ben voilà, je ne veux pas partager mes états d'âme avec vous, je veux simplement, je veux vivre l'Église simplement d'une certaine façon. Il nous a rappelé la vision de notre assemblée, vivre l'Église comme une famille en Christ, où sa vie jaillit en abondance, et également les cinq grandes orientations autour desquelles nous voulons structurer notre projet de vie d'Église pour les années qui sont devant nous. Et cette parole, cette prédication et en même temps témoignage de David est arrivée dans ma semaine, dans un temps où la France à nouveau était et est encore sous le choc de l'affaire Liana. Et tout au long du culte de dimanche dernier, je me disais, il y a des Liana peut-être parmi nous, ou des familles de Liana parmi nous. Je me disais que l'Église ne peut pas entendre l'écho de ce qui se passe dans la société. Je me disais qu'il n'est pas possible dans ces temps que le peuple de Dieu ne sente pas comme un fardeau dans son ventre pour se lever et proclamer sa tristesse, sa colère, son envie que ça change, mais vraiment. Je me disais que je suis fatigué de chanter des chants qui me donnent un shoot spirituel pour un dimanche et de recommencer dimanche après dimanche. Et que peut-être la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas venir prendre un shoot spirituel et le restant du temps vivre sa vie, ses priorités et recommencer inlassablement avec les mêmes chutes faites. Je ressens au plus profond de mon cœur et à mesure que je lis l'Écriture que la vie chrétienne ne peut pas être ce cycle infernal, cet éternel recommencement et qu'il y a des moments où il faut des combats et des ruptures spirituelles pour entrer malgré les larmes ou avec nos larmes dans ce que nous avons chanté durablement, c'est-à-dire dans cette victoire que nous avons proclamée. Notre vie ne peut pas être enveloppée de cette ombre, de ces ténèbres, et nous ne pouvons pas nous en contenter parce que celui qui est la lumière a brillé dans le monde. Or, nous voyons que cette lumière n'a pas encore complètement gagné le monde. Oui, notre pays est enténébré. Oui, notre pays ne va pas bien. Quelle est cette société qui produit autant de personnes capables d'agresser des enfants? Comment en sommes-nous arrivés là? Les scandales d'abus sur les enfants depuis des années dans ce pays font l'actualité et toujours les mêmes foules descendent dans la rue et toujours les mêmes bannières, plus jamais ça. Il y a quelques années, une décennie, j'étais nouvellement pasteur dans la ville d'Échirol, une banlieue du sud de Grenoble. Et la pédiatre de nos enfants, je peux la nommer puisqu'elle a écrit un livre pour restituer son histoire, Aurélie Moncam, a été l'une des mamans éventrées par la mort cruelle de ces deux jeunes qui avaient été lynchés au parc Géo Charles, Kevin et Sofiane. J'ai été avec des milliers d'Échirolois dans la rue, dans la marche blanche, et nous avons dit plus jamais ça. Calogero, le musicien connu de vous, qui a grandi dans cette petite banlieue de la ville de Grenoble, en face de l'église dont j'étais le pasteur, dans ses HLM d'où il vient, a composé une chanson, Un jour au mauvais endroit. Et le refrain nous dit, plus jamais, plus jamais, plus jamais ça. Philippe de Courroux, un autre musicien que vous connaissez, a chanté les nuits de notre monde. Le suicide de ce jeune de 16 ans qui s'appelait Sébastien. Toi, adolescent fragile que le monde ne comprenait pas. Toi que j'aurais voulu tant rencontrer, dit-il, pour te parler de l'amour de Dieu que tu n'as jamais trouvé. Et il dit, où es-tu, mon peuple ? Le monde soupire dans les pleurs, dans les cris, dans les larmes. Lève-toi pour lui. Alors ce matin, je voudrais nous réveiller ensemble. Je voudrais crier ma souffrance qui est peut-être aussi la vôtre. Je voudrais dire, Seigneur Jésus, parfois je ne comprends pas. Seigneur Jésus, parfois je fais partie de la cohorte de gens qui disent, où es-tu ? Seigneur Jésus, parfois je fais partie de la foule des gens qui disent, mais pourquoi tu laisses faire ? Nous ne pouvons pas nous habituer à une société autant gangrénée par la souffrance. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'apparence de la richesse de nos sociétés européennes et croire que tout va bien. C'est fini ce temps de l'illusion, mes amis. Derrière la façade de nos maisons, de nos familles, il y a des ruines. Et il est temps pour le peuple de Dieu de se lever et de participer à ce combat à genoux et par la parole. Quelle est cette société où la culture de la mort aussi répandue et aussi libérée? Dans les jours, les mois qui viennent, peut-être le texte sur la fin de vie, là aussi viendra changer de manière profonde notre rapport aux soins, notre rapport au vieillage, notre rapport à la fin de vie. Et c'est toujours la même culture de la mort. En me promenant dans Nîmes, me promenant, c'est trop dire, en amenant ma fille à l'école, comme je le fais chaque matin, j'ai été frappé par un phénomène qui m'avait échappé. Des jeunes marchant sur le trottoir avec des ballons de baudruche, là, en train de respirer, de souffler, d'absorber, je ne sais même pas comment dire. Je vois des jeunes au feu stop, en train de sortir leurs ballons et de tirer dedans. De plus en plus, on rencontre des bonbonnes, là, comment ça s'appelle, de gaz hilarant. Je ne viens pas de ce monde-là, je ne connais pas comment ça s'appelle. Protoxyde. Quelque chose en tout cas qui ne va pas vers la vie. Quelque chose qui est le symptôme sur nos trottoirs, auprès de l'école de nos enfants, dans nos quartiers, que quelque chose ne va pas dans notre pays. Mon cœur est triste. Le Seigneur m'a appelé quand j'avais 23 ans à venir dans ce pays et parfois je me sens presque inutile. Parfois j'ai la tentation de dire, mais Seigneur, je vais retourner. Non pas pour idéaliser mon pays, mais nous sommes pauvres. Mais les églises se remplissent, on n'a que toi. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont que toi. Les gens se lèvent parce qu'ils n'ont que toi. Les gens te mettent en premier parce qu'ils n'ont que toi. Je suis venu dans ce pays à 23 ans. Avec deux valises de 23 kilos dans chaque main. C'est l'histoire de ma vie. Que j'ai une maison, une voiture, que j'ai besoin d'un conteneur pour déménager, ne m'importe pas. J'ai décidé de vivre cet appel sans regarder les arrières, sans rechercher la sécurité. J'ai décidé que Seigneur, la peur de demain, on peut baisser le volume s'il vous plaît. La peur de demain, la peur de manquer, la peur de ne pas être soutenu par une église ne dictera pas mon ministère. J'ai connu la faim, j'ai connu la peur, mais tu as été là. Le Dieu de victoire, ce n'est pas un chant, c'est une expérience de vie. Le Dieu de victoire, ce n'est pas un chant, c'est un témoignage du quotidien. Le Dieu de victoire, on commence à le toucher. Quand on met sa vie en gage, c'est-à-dire quand on s'engage. Parce que dans engager, il y a la notion de gage. Frères et sœurs, nous ne venons pas cocher les cases. Pardonnez ce ton ce matin, mais il est des dimanches où l'Église du Christ doit sentir les souffrances de notre monde. Tu dois sentir que quelque chose ne va pas. Oui, notre pays est comme dans une nuit. Et cela m'a amené à méditer, à revenir en arrière un peu par rapport à là où on était avec la Pentecôte, et à méditer l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Je vais vraiment vous parler avec mon cœur, bien que j'ai plein de notes que j'ai posées. Je vais suivre la trame, ce sera plus simple. J'ai intitulé cette prédication « Affronter Gethsémané ». Affronter Gethsémané. Parce qu'il me semble que le point commun de toute cette expérience douloureuse, le point commun de cette triste vie, de cette société où la culture de la mort et la nuit de la mort dominent nos enfants, notre jeunesse, les aînés, il faut que le peuple de Dieu se lève pour affronter Gethsémané. Alors de quoi je veux parler ? Lisons la parole de Dieu et ensuite on va s'arrêter sur 5 points. Matthieu 26, versets 36 à 46. Merci à la vidéoprojection d'afficher le texte. Là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu dit Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. » Je suis triste à mourir. Ce sont les paroles de Jésus. C'est son état d'âme, là. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, Luc nous dira, à un jet de pierre, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » On rejoint le Notre Père là, que ta volonté soit faite. Il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi ?» Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. En d'autres versions, c'est dans la tentation. Et cela vient du même mot grec qui peut être traduit de deux manières, épreuve, tentation. Oh, l'esprit est bien disposé, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois. Et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il vient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore ? Vous vous reposez ? » L'heure s'est approchée. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous. Allons. Celui qui me livre s'est approché. Tout d'abord, je voudrais nous rappeler le contexte de ce moment crucial du ministère de notre Seigneur. Parce que nous l'avons chanté. Quand le monde vacille au milieu de la nuit de notre monde, nous devons chercher la face de Jésus. Nous devons contempler notre Seigneur. Alors le premier point, si la slide peut rester affichée, merci beaucoup hein, Irène, peut-être qu'il y a des soucis avec la technique, mais ça va nous aider. Et comme je quitte mes notes, je préfère suivre le PowerPoint, mais sinon je reviens à mes notes. Le contexte est donc, disais-je, celui des derniers jours de Jésus. Jésus sait que l'heure approche où il va livrer ce combat spirituel total. Ce combat spirituel qui le conduit dans son destin, ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du don de soi-même à la croix. Et nous sommes dans un moment où Jésus est en train de vivre les dernières heures, les derniers moments avec ses disciples. Mais il se sent seul au milieu de cette assemblée de disciples. Jésus va à Gethsémané, dans ce jardin où il avait l'habitude de se retirer souvent pour prier. Mais il ne veut pas être seul parce qu'il est dans un moment de la fin de sa vie. Il ne veut pas mourir seul, isolé, oublié. Ça devrait parler, n'est-ce pas, à notre société quand on veut réfléchir à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Quand on veut réfléchir à comment maintenir le lien avec ces personnes, comment cheminer avec eux. Et Jésus, dans son humanité, veut cheminer jusqu'au bout, accompagné et entouré de ses disciples. Mais il sait leur fragilité. Il sait que déjà, l'amour de l'argent a gagné le cœur de Judas. Et ce problème de l'amour de l'argent, c'est un problème contemporain. J'étais dans ma voiture et j'ai écouté, ça y est, la société d'Elon Musk entre en bourse, il devient le premier homme dans l'histoire du monde à dépasser 1000 milliards de dollars. Moi, je n'ai pas de problème avec l'argent, mais il y a des sommes qui sont indécentes. Je n'arrive même pas à me représenter qu'est-ce que c'est que 1000 milliards de dollars. Je me suis dit, donnez-lui cet argent-là, apportez cet argent-là comme une montagne et faites-le asseoir et qu'il compte un dollar jusqu'à 1000 milliards de dollars. Je crois que sa vie finirait avant qu'il n'ait pu compter tout ça. L'amour de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas créer, qu'on ne doit pas produire. Nous avons des chefs d'entreprise formidables, je le suppose, dans cette église. Ils développent la richesse, ils recrutent les gens, ils donnent du travail. C'est bien de gagner bien sa vie. Mais faire de la recherche de l'argent le moteur de sa vie, comme Olivier a dit, ou faire de son travail le moteur de sa vie, me semble-t-il, c'est passer à côté d'une plus belle ambition de Dieu pour nous. Faire du Christ le centre de nos vies, le moteur de nos vies. Jésus savait que Judas, qui avait déjà était amorcé, ameçonné par l'amour de l'argent, allait le trahir. Il savait que Pierre, le roc, le dur, allait se révéler fragile. C'est dans le même contexte que quelques passages plus tôt, Pierre lui dit, « Seigneur, comme on l'a chanté, je donne ma vie pour te suivre. » Facile à chanter, hein. Facile à chanter. Facile à chanter, hein. Mesurons ce que nous chantons, bien-aimés. « Je donne ma vie pour te suivre, hein. » Tu as chanté ce matin. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je suis, tout ce que j'ai. C'est vrai ça? Pierre l'a dit. Et heureusement que le Seigneur connaît que parfois nos paroles dépassent la réalité de là où nous en sommes dans nos cœurs. Il n'a pas dit à Pierre, tais-toi. Mais il lui a dit, Pierre, je sais, derrière ta parole, je vois ta motivation. Je l'honore. Mais dans ce combat-là, tu connaîtras une défaite. Mais cette défaite ne sera pas le mot final. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Merci Jésus de prier pour nous. Quand nos paroles ne sont pas consistantes, quand nous chantons ce que nous ne vivons pas encore, merci Seigneur de prier pour moi, d'avoir compassion de moi. Parce que je ne vis pas encore tout ce que je prêche. Et Jésus savait que Pierre allait être battu. Mais Jésus lui dit, Pierre, Jean, Jacques, venez, allons. Il prend tout le monde et il prend ses trois. Et je me suis dit, Jean et Jacques, c'est bien qu'ils soient là. Parce que leur maman, vous savez, il y a les pistons hein, depuis toujours. Hein. La maman Zébédée était allée trouver Jésus en disant, tu as pris Jean, tu as pris Jacques. Voilà, l'entreprise familiale est démembrée puisqu'ils étaient pêcheurs. Et maintenant, tu les prends, ils roulent pour toi. Tu fais d'eux des pêcheurs d'hommes. Mais tant qu'à rouler pour toi, donne-leur quand même des bonnes places à tes côtés. Il faut qu'il y ait un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est le cœur d'une mère. J'aurais peut-être fait la même chose. Et Jésus a dit, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que j'aurai à boire? Et Jésus les amène auprès de cette coupe-là. Ils ne peuvent pas la boire. Ils ne peuvent pas la boire. Jésus est seul. Ils dorment, ils ne peuvent pas la boire.
qu'aucun de nous ne pouvait la boire. Voilà le contexte de Gethsémané. Un Jésus pleinement dans son humanité qui ne cache pas ses états d'âme. Il dit, mon cœur est rempli de tristesse, le mot est fort, il dit d'angoisse. Il sent comme sa poitrine se comprimer. Je me demande, Seigneur, quel était le fardeau que tu avais sur le cœur? C'est le deuxième point, la nature du combat spirituel de Jésus. C'était quoi? Qu'est-ce qui se jouait à Gethsémané? Était simplement l'expression humaine de la tristesse et de l'angoisse? On a longtemps considéré que peut-être Jésus a eu l'épreuve aussi de l'angoisse de la mort, de la peur de la mort. Rien d'extraordinaire, c'est tout à fait humain. Oui, un chrétien peut s'inquiéter. J'ai vu des chrétiens partir devant moi, tenant ma main. On a tous besoin d'une parole qui nous accompagne, qui nous apaise pour cette traversée. Rien d'étonnant que dans son humanité, Jésus ait besoin d'entendre le Père lui donner une parole pour la route, pour le reste de la route. Mais l'histoire est remplie d'hommes et pas que des chrétiens qui ont affronté la mort courageusement. Pas que des martyrs de l'ère chrétienne, dans différentes traditions, dans différentes histoires. Il faut donc trouver une raison qui est plus que la peur de la mort dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et qui nous tient quelque part dans nos vies. Au-delà de la peur physique, au-delà de l'angoisse psychologique, qui est une réalité humaine, et Jésus fait place ici à cette réalité humaine. Le poids que Jésus porte sur ses épaules, Gethsémani, c'est le spectacle de l'horreur de notre monde. C'est toute cette injustice que Jésus voit, c'est tout ce péché qui a gangréné que Jésus voit. Il a le poids de l'humanité sur les épaules. Et il sait que le Père dépose sur lui le péché de chacun de nous. Lui, le juste, devient l'injuste à Gethsémané. Lui, le pur, est revêtu de l'impureté du monde. Il médite sans doute les prophètes. Il touche du doigt la réalité de ce qu'il connaissait de toute éternité. Il est triste de voir que son propre peuple, en majorité, est passé à côté de lui. Il est triste de voir toutes ces trahisons, tous ces abandons. Mais plus que tout, il y a la perspective incompréhensible. Les théologiens essayent de le dire, mais c'est presque indicible. Lui qui est toute éternité est en communion avec le Père et l'Esprit Saint, mais qui s'avance vers un chemin où pour un temps, il sera séparé du Père, de cette communion filiale, par amour pour moi, pour toi, pour nous. Vivre une seule seconde sans toi, Père, qu'est-ce que ça nous remplit de tristesse? Vivre sans la source de l'amour, quelle tristesse! Le troisième point nous montre comment Jésus réagit face à ce spectacle désolant. Oh, merci. Mais j'avais une bouteille ici. Merci. Allez, je vais t'honorer, Noah. Merci. Ça fait transpirer. Elle est fraîche. Troisième point que je voudrais relever, après le contexte, après ce tableau triste de Gethsémané qui brise le cœur de celui qui est venu guérir les cœurs brisés, il nous propose de voir comment réagir, comment affronter l'obscurité de notre monde, comment faire face au réel en toute humanité et en toute humilité. Jésus entre humblement dans la prière comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire comme un homme pleinement humain. Il ne fait pas semblant, il n'est pas moins touché par ce qu'il voit. Il n'est pas moins touché par ses trahisons, ses abandons. Il n'est pas moins touché par le spectacle attristant, accablant du monde pour lequel il est venu. Bien-aimés, ne nous habituons pas aux faits divers. Ne nous habituons pas au mal qui fait mal. Ne nous habituons pas. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus nous révèle qu'on ne peut pas arriver par nous-mêmes. Lui, le Fils, dans ce combat spirituel, parce qu'il s'agit d'un combat spirituel, un combat qui se situe entre la chair et l'esprit, entre cette humanité engourdie si facilement, cette humanité qui, sans Dieu, est rebelle, se détourne si facilement, et cet esprit qu'il nous dit qui est vif, l'esprit qui est ardent, l'esprit est bien disposé. Mais la chair, il n'a pas dit le corps. La chair, c'est-à-dire cette humanité sans Dieu, elle est faible. Il ne suffit pas d'une bonne volonté. Encore faudrait-il venir à la source de celui qui nous donne cette force. Pendant la louange, j'avais les paroles d'un vieux cantique qui revenaient. J'ai hésité à l'entonner. Il disait, veux-tu briser le péché, le pouvoir ? La force est en Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau. Nous l'avons chanté. Je ne fais que d'enfoncer un clou que vous connaissez déjà, bien-aimé. Mais Jésus a eu besoin de ces temps de communion vitale que j'ai beaucoup du mal à vivre comme je l'aimerais plus intensément dans la prière, un acte d'humilité où nous devons reconnaître en fléchissant le genou que nous n'avons pas toutes les ressources en nous. Et si lui, le Christ, si le Fils de l'homme, mais pleinement Dieu, a fléchi le genou à Gethsémané et a demandé au Père la force. Tant et si bien que Luc, par rapport à Matthieu et à Marc, dans un des manuscrits de Luc, et vous avez ça dans vos Bibles entre crochets, il nous dit que le Père a envoyé un ange pour fortifier le Fils. Alors c'est entre crochets parce que les manuscrits sur lesquels on s'appuie là ne sont pas les principaux. Donc on ne sait pas d'où vient cette tradition, mais il semblerait que les premiers chrétiens ont compris que dans ce combat spirituel, le Fils avait besoin d'être encouragé, d'être renouvelé par le Père et par une vision qui ne s'arrête pas à Gethsémané. Parce que la foi chrétienne et la vie chrétienne ne s'arrêtent jamais à Gethsémané. Ce n'est jamais un long vendredi saint infinissable. Nous savons qu'après ce vendredi, il y a la croix. Et qu'après la croix, il y a le dimanche matin de Pâques. Et c'est pourquoi 2000 ans après, un peu plus de 2000 ans après, nous pouvons chanter qu'il a vaincu. Et dans cette prière dans laquelle Jésus entre, nous voyons combien il nous montre que ce qu'il recherche, ce n'est pas changer les circonstances extérieures. Ce qu'il recherche, c'est d'être fortifié afin que le Père soit glorifié. Que ta volonté soit faite. À trois reprises, Jésus va prier la même chose. Si la coupe de douleur, la coupe de la colère doit être bue jusqu'à la lie, alors, Père, fortifie-moi afin que ta volonté soit faite. Oh, j'entends beaucoup de prières, ici et ailleurs, parfois les miennes aussi, où je me dis, tiens, il faut que tu t'arrêtes, parce que là, c'est toi qui deviens Seigneur, là. C'est toi qui deviens Seigneur. Tu commences à donner des injonctions à Jésus et tu confonds ça avec l'autorité en Christ. Tu commences à lui donner des commandements et tu confonds ça avec prendre autorité. J'entends des enseignements qui sont à dénoncer, qui sont d'une certaine façon hérétiques, parce qu'on passe le temps à dire à Jésus ce qu'il doit faire, à lui ordonner ce qu'il doit faire, ici, maintenant. Je nous invite à beaucoup de sagesse, à beaucoup de discernement, à beaucoup de recul vis-à-vis du mimétisme que je vois dans l'univers évangélique. Attention, tout ce que vous voyez sur les grands écrans, les belles régies de beaucoup d'églises qui sont sur ce créneau, ne doit pas être pris comme ça. Ce n'est pas nous qui ordonnons à Jésus. C'est Jésus qui nous fait l'honneur, la grâce d'être ses serviteurs et ses servantes. Nous devons prier pour chercher simplement à discerner là où il agit déjà, sa volonté. Il n'y a pas besoin des formations, de sauter, de crier pour dire au nom de Jésus, sors de ce corps. Je peux vous l'assurer que je l'ai vécu tant de fois. La prière de délivrance. Quand on commence à crier, à gigoter dans tous les sens, ça n'a pas encore commencé. Jésus ne gigote pas, ne crie pas, n'hurle pas, ne fait pas du spectacle. Là où il est, le démon, au nom de Jésus, n'importe quel enfant de Dieu prend autorité, non pas sur Jésus, mais sur la base de sa parole. Délivre-nous du mal. C'est la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci de délivrer cette personne du mal, du mauvais, et tu t'en vas. C'est simple. C'est simple. Pas besoin d'un grand séminaire pour ça, ou de faire venir quelqu'un des États-Unis ou que sais-je encore pour ça, de la Réunion pour ça. Non, c'est simple. Humilité, humanité, authenticité centrée sur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de Polyphona, ce n'est pas au décibel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon autorité qui est en jeu, c'est Jésus qui agit. Quand les apôtres ont fait au paralytique de la belle porte, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les gens voulaient venir les adorer. Non, c'est Jésus qui l'a fait, ce n'est pas nous. Ça ne témoigne aucunement d'une spiritualité plus élevée ou d'un statut autre. C'est Jésus qui l'a fait, rendez-lui gloire et pas nous. C'est le contraire de ce que je vois de plus en plus. On pense que c'est lié à un nom, que c'est lié à un ministère. Alors ce n'est plus Jésus qui agit. Il n'est plus suffisant. Il ne peut pas agir là, maintenant, ce matin. Je crois de tout mon cœur qu'il peut le faire ce matin. S'il le veut, non pas comme moi je le veux, mais sa volonté et non la nôtre. Quatrième point, donc avant-dernier. Et on l'a chanté, donc je vais aller vite. Ce temps à Gethsémané. Cette agonie où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par les pleurs et à grands cris que bien que fils, il est entré dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, nous rappelle le prix payé pour notre rédemption. Je fais plaisir à Fred en citant encore Dietrich Bonhoeffer dans son fameux livre que tu aimes beaucoup, Le prix de la grâce, où déjà en son temps il mettait les églises en garde contre l'esprit de la religiosité, contre un fonctionnement qui consiste à transformer l'église en prestation de services religieux. Moi, je suis allé dans une église au Cameroun où un membre de ma famille va, et pour chaque sujet de prière, le pasteur demandait, on distribuait des enveloppes, et le pasteur disait, il faut mettre la semence. La semence, c'est l'argent, un billet. Et quand vous voyez 500 personnes qui s'aiment, mais qui ne moissonnent jamais, ça fait mal au cœur. Et lui, il moissonne. Je peux vous dire qu'il vient faire des tournées en Europe, et il n'est pas dans le Formule 1. Il est dans les 5 étoiles. Hilton, c'est le minimum. Ça, ce n'est pas la grâce. C'est l'évangile de la prospérité la plus puérile. Le prix de la grâce, c'est celui que Jésus a payé à Gethsémani et à la croix. Elle est gratuite pour nous parce que la Bible nous le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est gratuitement. Il n'y a rien à payer. Même mes dons, même ma dîme, ça ne paye pas ça. Ça ne me donne pas plus de voix dans l'église, plus de pouvoir. C'est un don pour le service de l'œuvre du Christ. Le prix de la grâce est gratuit, mais il a un coût. Jésus est mort pour lui. Est mort pour toi, pour moi. Il a donné sa vie. Et parce qu'il a donné sa vie, nous ne pouvons pas prêcher une grâce à bon marché. Une grâce qui ne parle plus du péché. Une grâce qui ne parle plus du pardon. Une grâce qui ne parle plus de la repentance, de la conversion. Voilà la grâce à bon marché. La grâce qui dit tout simplement que Dieu vous aime. Que Dieu ne vous juge pas. Que vous êtes toujours les bienvenus dans la maison de Dieu. La grâce qui nous flatte, la grâce qui ne nous aide pas à grandir, la grâce qui ne nous aide pas à dépasser nos frustrations pour devenir adultes dans la foi, c'est la grâce à bon marché. c'est la grâce bradée. C'est les soldes tout le long de l'année. La grâce biblique, c'est Jésus-Christ à genoux, pleurant et transpirant le sang pour sauver chacun de nous. Pouvons-nous la rendre si banale? Pouvons-nous la considérer comme le sucre glace sur le gâteau? Juste un saupoudrage? J'aimerais conclure. Si toi aussi tu es touché par Gethsémané ce matin, si ta vie est un lieu de combat spirituel comme la mienne, si notre pays te semble être un terrain de combat spirituel, d'abord ce que Jésus m'a appris, c'est qu'on peut apporter notre douleur, notre tristesse, notre angoisse auprès de lui. Il y a une place pour ça. Tu peux le dire à Jésus ce matin. Ce qu'il m'a aussi appris en méditant ce texte, c'est que pas besoin d'être costaud pour ça. On ne va pas confondre être costaud et la foi. Il a dit que si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, alors elle peut agir. Donc, en dépit de la fragilité, gardez la foi. Et la question que nous adresse l'Écriture, c'est quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il n'a pas dit quand Jésus reviendra, trouvera-t-il que tout le monde est guéri, que tout le monde est riche, que tout le monde est dans la prospérité. Ce n'était pas ça le sujet de Jésus. Mais trouvera-t-il la foi sur terre? Garde la foi, mon frère, ma sœur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son combat, entre dans sa victoire. Et puis dans ce passage, vous l'avez remarqué à trois reprises, Jésus revient vers son église, endormi, engourdi, et dit « Vous n'avez pas pu veiller. » Nous avons besoin d'une église où chacun se réveille. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ éclairera. Dit l'Écriture. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Le pays a besoin de chrétiens, d'un peuple réveillé, éveillé aux vrais enjeux. Blaise Pascal a écrit beaucoup sur le divertissement et Mathis nous parlait un peu de la distraction dans la préparation au baptême. Réveillons-nous. Transformons une partie du temps de nos séries en temps de prière. Transformons une partie de nos abonnements en quelque chose qui nous construit, qui nous forme. Réveillons-nous dans le but de nous aligner tout simplement à la volonté du Père. Il veut que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans le ciel. Il le veut vraiment, n'en doutons pas. Il veut que nous y participions et c'est une grâce et un honneur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Même si tu as été à Gethsémani et tu as souffert, et parfois j'ai envie que cette souffrance ne se reproduise pas. Quand je vois ce pays dans lequel tu m'as appelé à exercer mon ministère, et parfois je pleure. Quand je vois ton église, tes églises en France, parfois j'en tremble. Ce matin, je te prie pour que tu viennes nous visiter tous, que tu viennes parler à nos cœurs, après ces beaux chants, après cette belle première partie. Seigneur, que tu viennes aider chacun à dépasser l'instant d'un moment et entrer avec toi à Gethsémani jusqu'au matin de Pâques. Je veux t'apporter la famille de Liana et de tous ceux qui sont dans la souffrance dans ce pays, afin que tu viennes, Seigneur, te tenir à leur côté. Il n'y a que toi qui peux les rejoindre. Je t'apporte toutes les victimes silencieuses dans nos églises, dans nos familles, dans ce monde, afin que tu places autour d'elles des personnes qui savent écouter et des personnes qui savent accompagner. Je vais t'apporter notre pays afin que tu donnes des hommes, des femmes de courage politique pour dépasser le millefeuille administratif et prendre les mesures avec sagesse qui permettent de protéger nos enfants et de limiter la culture de la mort. Seigneur, je te prie pour la France. Que ton Église se réveille. Merci pour ta victoire. Merci parce que ce combat n'est pas le nôtre. Nous l'avons rappelé. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Amen.